C'est un des imposteurs les plus infatigables de notre temps. Il a berné des villes entières, raconté des mensonges rocambolesques, escroqué des puissants et des SDF. Ce qu'il aime, c'est bien manger, beaucoup parler et dormir dans vos draps.
C'est un mytho, un escroc, c'est un phénomène.
Découvrez Le Pic Assiette, la nouvelle série des Pieds sur Terre, en ligne à partir du 19 juin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Un des aspects les plus intéressants, à mon sens, du témoignage choc du journaliste Nicolas Demorand, qui a révélé publiquement sa bipolarité, c'est la question du traitement. Il explique en effet que sa maladie chronique a pu être stabilisée, à défaut d'être guérie, grâce à des médicaments. Mais que trouver le traitement adéquat, la bonne molécule ou la bonne combinaison, appropriée à ce patient précisément, est un long processus expérimental qui nécessite des recherches, des ajustements, des tentatives et des échecs, jusqu'au moment où les médecins et le patient ensemble arrivent à trouver le bon produit ou la bonne association. À ce moment-là, on imagine bien que les médicaments qui fonctionnent deviennent tout à fait irremplaçables et précieux. Sauf que voilà, d'après une commission d'enquête du Sénat, 37% des Françaises et des Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments. En 2024, selon l'adresse, environ 1000 ruptures de stock ont été signalées. Tout d'un coup, vous allez à la pharmacie et il n'y en a plus. Les pénuries sont liées à la délocalisation de la production en grande partie. Elles concernent les médicaments contre la douleur, les problèmes cardiaques, le cancer ou le diabète, mais aussi les antidépresseurs. Comme on l'entend tout de suite avec l'histoire d'Anne suivie de celle d'un pharmacien qui raconte à son tour ce qui se passe quand les médicaments viennent à manquer. De récit de Karine Lelouette.
Je suis Anne Cinca, j'ai 48 ans et je vis dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Alors j'ai ressenti les premiers symptômes, je devais avoir une quinzaine d'années, donc j'ai ressenti un énorme mal-être. Je passais de moments très très joyeux, très heureux, d'une ado quoi, à des moments d'infinie tristesse, mais je l'identifiais pas, enfin je comprenais pas pourquoi, sachant que rien n'avait changé dans ma vie. Et c'est une copine, en fait, qui m'a dit « Écoute, Anne, on te reconnaît plus. T'es devenue très, très triste. » Et là, j'ai craqué. Alors, là, j'ai craqué et j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une crise de nerfs. Ce qu'on mettait un peu sur le compte de la crise d'adolescence, quoi. Mais c'était des cris, des pleurs. Ma mère était tellement, se sentait tellement impuissante et désemparée qu'elle a fait venir mon père du bureau. C'est vraiment le mal-être qui s'est manifesté, quoi. Une énorme colère, une énorme tristesse. Je me rappelle m'être calmée difficilement, ouais. Je crois me souvenir qu'un médecin est venu pour me faire une piqûre pour pouvoir me calmer. Et puis, après, je sais pas, j'ai un espèce de gros trou noir. Les jours d'après, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis après, j'imagine que je suis retournée au lycée, quoi. Donc bon, j'étais au lycée, donc après il y a eu la fac et une école de commerce et j'allais de dépression en dépression. Et puis je comprenais pas pourquoi en fait, pourquoi j'étais mal et puis pourquoi j'étais bien. En fait, donc du coup on m'a dit que je faisais des dépressions récurrentes. Bah, ok, je fais des dépressions récurrentes, mais mais je prends des médocs et puis la dépression ça va mieux. Du coup j'arrête les médocs. Puis du coup, je replonge en dépression. Et puis voilà, puis ça a duré des années comme ça. Ça a duré des années. Voilà, cette espèce de cirque infernal. Et puis, il y a eu une aggravation au fur et à mesure. Une aggravation, ça veut dire des phases dépressives de plus en plus dépressives. Et ce que je sais maintenant être des phases up de plus en plus up, en fait. C'est-à-dire ce que je croyais être du bien-être, c'était en fait de l'exaltation. Je vivais, j'étais heureuse, je sortais, je voyais mes potes, je réussissais à l'école, j'écrivais plein de trucs, je réussissais tout. Enfin, j'avais le cerveau en ébullition, quoi. C'était vraiment... mon cerveau, il tournait tout le temps. Et puis je dormais moins, mais en même temps c'est pas grave parce que j'avais pas besoin, j'étais pas fatiguée, donc et c'était top quoi, c'était vraiment top. Et puis à un moment, bim, ben plus je montais haut en fait dans l'exaltation, ben, plus je descendais bas. En fait, la phase dépressive répond souvent à la phase maniaque, c'est-à-dire vous plongez après une phase hypomaniaque ou maniaque et vous plongez aussi bas que vous êtes monté haut quoi. Et la phase dépressive a une durée un peu exponentielle, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut être plus longue qu'une phase maniaque. Une phase maniaque peut être très très courte, une phase dépressive peut être très très longue. Alterner ces phases, ça a duré jusqu'à... Bah, tout le temps, en fait. Ça a tout le temps duré. Donc je suis restée de 15 à 40 ans sans diagnostic. Alors, du point de vue pro, l'école de commerce m'a vraiment plu. Et puis, bah, du coup, la vie professionnelle a commencé. On est en phase un peu up. Moi, en tout cas, je peux vendre de la glace à un pingouin. Hein, donc, j'ai trouvé un boulot tout de suite. Seulement, c'est des boulots qui ne me convenaient pas. Et du coup, j'ai commencé à faire une boîte, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis, c'était une course en avant, en fait. Et en même temps, j'allais de mal-être en mal-être, d'échec en échec. J'en suis même arrivé, ma dernière boîte, à composer les numéros de téléphone des gens que je devais appeler, ne pas composer le dernier chiffre, et avoir une discussion comme si je les appelais, quoi, en fait. C'est-à-dire simuler les discussions, les négociations au téléphone que j'aurais dû avoir, mais en fait, j'appelais pas. J'appelais personne, j'étais tellement... J'avais la trouille, j'étais pas bien, j'étais... Ça allait pas, quoi. Ça allait pas. J'étais... Et là, en fait, c'était la maladie qui arrivait à son paroxysme, quoi. Et j'avais 40 ans. Ma première hospitalisation, ma fille avait 6 ans. Elle en a 18 aujourd'hui, donc c'était il y a 12 ans. J'ai été hospitalisée pour état dépressif majeur, tentative de suicide. Moi, j'étais dépressive, et là, j'étais juste méga dépressive. Je voulais mettre fin à mes jours. Voilà, mon problème, c'était ça. C'était, je voulais mourir. Enfin, mourir. Arrêter de souffrir. Et je suis restée 8 mois en hospitalisation. Alors, je me souviens qu'il y a eu pas mal de traitements qui ont été essayés, qui fonctionnaient. Alors, c'est pas qu'ils fonctionnaient pas, mais qui provoquaient des phases maniaques ou des effets indésirables trop importants. Enfin, genre, il y en avait un, j'avais des jambes comme des poteaux. Il y en avait un autre, j'étais complètement dans le... Même à toute petite dose infime, j'étais complètement, enfin, ce qu'on appelle, nous, un zombie, quoi. Ou alors, il y en avait un, je devenais complètement parano. J'avais l'impression qu'on disait du mal de moi tout le temps. Donc, il a fallu changer de traitement. Donc, il y en a beaucoup qui ont été essayés. C'était rude. C'était vraiment rude. Je crois que c'était l'hospitalisation la plus difficile. Ensuite, il y en a eu une deuxième quelques années après. Et entre-temps, entre les deux hospitalisations, j'avais repris des études pour devenir infirmière. En psy, comme par hasard. Et arrive le cours de psychiatrie, le module de psychiatrie. Et là, pendant le cours, je me dis, putain, trouble bipolaire. Je me dis, ouais, c'est marrant. Oh tiens, c'est marrant. Puis je... Donc au moment de la deuxième hospitalisation, donc là, je plonge de nouveau, ça va pas. Redépression. Mais là, j'ai eu une espèce de lueur, quoi. Les troubles bipolaires, c'est moi. Et je vois la psychiatre et je lui dis, c'est pas ça que j'ai. Et elle m'a dit... Si. Donc voilà comment le diagnostic est tombé. Donc voilà, j'avais 40 ans. J'ai eu un nouveau traitement à base de thymorégulateurs, d'antipsychotiques et de mini-doses d'antidépresseurs qui ont permis de me stabiliser. Jamais très longtemps, mais quand je dis jamais très longtemps, c'était jamais plus de quelques mois. Mais ça a au moins eu cet effet-là. Et c'était une des premières fois que, depuis mon enfance, que je savais ce que c'était de ne rien ressentir. Ni trop, ni trop peu. Alors j'étais contente parce qu'il n'y avait plus de dépression, mais alors pour l'hypomanie, vivre sans hypomanie, c'était... Il n'y a pas un bipolaire qui n'aime pas l'hypomanie. On adore ça. L'hypomanie, c'est génial. Vous êtes bien tout le temps. Vous n'avez pas besoin de dormir, ou peu. Vous n'êtes pas fatigué. Et vous pouvez faire plein de trucs, plein de trucs, c'est super. Et vous arrivez à tout faire, enfin c'est génial quoi. C'est génial. Et en plus, vous êtes hyper créatif. Tout le monde vous regarde avec... Avant, on vous regardait avec dépit. Là, on vous regarde avec admiration, limite. Parce que vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de tout. Jusqu'à ce qu'arrive la dépression. Et puis, j'ai eu un énième traitement, donc la dépakote, qui là, par contre, elle me stabilise. Enfin, il y a une très bonne réaction, quoi, en fait. J'avais vraiment le sentiment d'avoir atteint le bien-être. Ni trop bien, ni trop mal, quoi. Vraiment le bien-être. Waouh, quoi. Donc, super. Ravie, quoi. Heureuse. Et puis, ça tient 2 ans. Et puis, arrive le Covid et je prends ma fille par le bras, je préviens son père, on était séparés, je préviens son père. Et on part chez mes parents en Bretagne. 3 slips, 2 paires de chaussettes et on s'en va, quoi. Et ça loupe pas, 3 jours après, on est confinés. Et là arrivent les problèmes de rupture. Et la dépakote était en rupture chez mon pharmacien. Elle me dit « Non, j'en ai plus en stock, bon, c'est pas grave, je commande. » Puis il arrive à avoir la moitié de mon ordonnance, quoi. Il me dit « Je commanderai le reste pour plus tard, quoi. » Bon, ok. Et puis, je reviens au bout de 10-12 jours pour chercher le reste de mon traitement. Et là, on me dit « non, j'en ai pas. Le fournisseur n'en a pas non plus. » Et puis finalement, il contacte le labo. Et le labo n'en fabrique plus. Donc, plus de dépakote. Rupture. Je vais voir une autre pharmacie. Ils en ont. Bon. Donc, j'arrive à avoir, je sais plus, peut-être 1 semaine, 10 jours de traitement. Bon, je m'en sors comme ça. Et j'ai réussi à bidouiller comme ça, 1 fois ou 2, quoi. Et entre-temps, il y a eu l'angoisse, justement. C'était la première fois que j'étais relativement bien stabilisée. Depuis 2 ans pour moi, c'était éternel, quoi. Je veux dire, ça m'était jamais arrivé, 2 ans de suite, quoi. Donc... il me fallait mon traitement, quoi. Donc j'ai fait plusieurs pharmacies, j'en ai fait venir de Paris par des amis. Ma mère qui avait demandé une ordonnance à son médecin, bon, ça n'a pas marché. Elle avait demandé que mon traitement soit prescrit sous son nom pour que je puisse avoir 2 fois la dose, pour que je puisse avoir un peu d'avance, en fait. Donc, mais le médecin n'a pas voulu. Et là, j'angoisse sérieusement. À la maison, c'est un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire j'angoisse parce que je suis pas bien, enfin parce que je risque de ne pas être bien. Mes parents angoissent parce que je risque de faire une crise qu'ils risquent de subir et ils risquent de se retrouver à nouveau désemparés, à nouveau impuissants. Et puis en plus, j'angoissais. J'avais peur que ma fille angoisse parce que j'angoisse. Enfin, bon, bref, c'était un espèce broglio comme ça duquel j'avais du mal à sortir. Et puis cette fameuse angoisse de pas avoir mon traitement, quoi. Et de sombrer à nouveau et encore plus fort. Et puis à ce moment-là, du coup, la psychiatre me dit on va changer de molécule, on va prendre une molécule à peu près similaire, dépakine. Bon. Et donc, il se trouve que chez mon pharmacien, il restait de la dépakine. Donc, je prends de la dépakine. C'est pas trop mal, la stabilité est toujours là, l'angoisse est toujours là aussi, bon, je m'en sors. Et puis là, clac, on se remet à produire de la dépakote. Bon, soulagement. Mais ça a été un soulagement de courte durée, ça a duré quelques semaines, et puis de nouveau rupture. Rien, nulle part, à ce coup-ci nulle part. Et là, j'ai un copain qui est marocain, qui vit en France, et qui a un ami à lui qui est pharmacien au Maroc, et qui arrive à me procurer une boîte de dépakine. Et entre-temps, la boîte n'a pas eu le temps d'arriver. Crise d'angoisse, crise de panique. Je suis reparti dans une phase, quoi. Je suis reparti dans une crise. Avec de nouveau des idées noires, de nouveau des idées suicidaires. Mais seulement là, ma fille était là. Et donc tous les jours, je me levais en disant non, ne te suicide pas, ne te suicide pas, ne te suicide pas. Ta fille est là, ta fille est là, ta fille est là. L'angoisse était intense. Je faisais des crises de panique, mais avoir l'impression que j'allais mourir, quoi. Mais j'allais mourir d'une crise cardiaque, où j'avais l'impression que j'avais le cœur qui allait imploser, quoi. Et j'avais aussi un sentiment d'injustice énorme. Je me disais, mais les labos, quoi, ils ont nos vies entre leurs mains, quoi. C'est pas du Doliprane, quoi. Je vais pas soigner un mal de tête, quoi. Je vais m'empêcher d'avoir des crises suicidaires, quoi. Je vais m'empêcher de me... Enfin, ce médicament m'empêche de me foutre en l'air, quoi. Et donc, du coup, ma psychiatre qui, elle... Elle a bien conscience que, elle aussi, elle a ma vie entre ses mains, quoi. Là, elle me dit, dans ce cas-là, on change de molécule. Voilà. Et c'est là que j'ai changé de traitement. On en a testé plusieurs avant d'en trouver une autre. Et puis est arrivée la molécule que je prends aujourd'hui, qui fonctionne bien. Mais en fait, j'ai tellement peur. En fait, cet épisode-là m'a tellement marqué que j'ai tellement peur de manquer que j'ai 6 mois d'avance. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher mon traitement toutes les 4 semaines, comme je faisais habituellement, je vais le chercher toutes les 2 semaines et demie, 3 semaines, pour être sûr d'en avoir d'avance, au cas où il vienne à manquer. Les solutions qu'on a ne sont pas satisfaisantes. Et non, on ne peut pas se contenter d'être un peu bipolaire plutôt que énormément bipolaire. Non, on ne peut pas se contenter d'avoir des vies comme ça. On ne peut pas. Et comme tout le monde, on a droit à une vie correcte. Et on peut avoir une vie correcte avec des troubles bipolaires. On peut avoir des postes à responsabilité. On peut avoir un boulot. On peut avoir des loisirs. On peut avoir des amis. On peut avoir de la famille. Voilà, malgré cette maladie ou avec cette maladie.
René-Pierre Clément, je suis pharmacien d'officine à Thionville, en Moselle. Je suis de la 3e génération de pharmaciens. Mon grand-père a eu en premier cette officine à Thionville. Ensuite, papa l'a exploité de 73 à 2011 et je l'ai repris en 2011. C'est une clientèle essentiellement de quartier et Thionville représente également une spécificité. On a beaucoup de travailleurs frontaliers, donc qui travaillent au Luxembourg, et comme la plupart des pharmacies, une patientèle assez âgée de patients que l'on qualifie de chroniques, c'est-à-dire qui ont des traitements réguliers. Les patients pour qui il y a eu ce problème d'approvisionnement en médicaments, ce sont des patients dont l'histoire remonte également comme celle de ma famille et la pharmacie à 3 générations, qui m'ont connu tout petit, qui ont connu mes parents tout petit, qui ont connu mes grands-parents. Il s'agit donc d'un couple de 80 ans. Ce monsieur a travaillé pendant de nombreuses années, comme beaucoup d'autres personnes dans la région, pour la sidérurgie. Ensuite, il a pris sa retraite. Donc, comme tout patient chronique âgé, il a différents traitements. Puis sa santé a décliné au cours des années. Ça faisait quelques années qu'il était malheureusement alité. Et sa femme venait chercher ses traitements effectivement assez régulièrement. On lui a fourni un lit médical. Et à la période du Covid, quand il a fallu le vacciner, il n'y avait plus d'infirmières qui se rendaient à domicile. Nous n'étions à une période pas autorisés à vacciner en dehors de nos murs, mais bien évidemment, pour ce patient, j'ai fait une exception. J'avais été à domicile. Il y avait un risque majeur. Quand même, son épouse sortait, allait dans les magasins, donc il y avait un risque de contamination. Donc j'ai fait la part des choses. Donc j'ai pris la décision de faire cette vaccination. Et ensuite, tous les rappels, comme de nombreux Français l'ont connu, le schéma des rappels de vaccination qui était très fortement recommandé à une époque. Malheureusement, il a décliné et je pense qu'à la fin, il ne me reconnaissait plus ou il savait plus exactement qui était l'intervenant en blouse blanche qui venait pour s'occuper de lui ou amener les médicaments ou tout autre soin que j'aurais pu lui apporter. Au cours de l'année 2023, le patient a eu 2-3 épisodes de bronchite compliquée, dans certains cas de pneumonie, une toux, des difficultés respiratoires, des expectorations, donc des crachats. Quand on est alité, c'est dur de cracher, le patient peut s'encombrer, donc le médecin a prescrit l'antibiotique de référence, qui est l'augmentin, donc une association d'amoxicilline et d'acide clavulanique, pendant une durée usuelle d'une semaine de traitement. Donc on a toujours eu une réponse satisfaisante, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine de traitement, le patient est rétabli, n'a plus de fièvre, plus de crachats, il est rétabli. Donc fin d'année 2023, la patiente revient, donc l'épouse du patient, avec l'ordonnance classique du même médecin traitant, avec la prescription d'augmentin. Et donc je me trouve, comme de nombreux pharmaciens à cette époque, confronté à une rupture d'approvisionnement, c'est-à-dire que je ne peux pas me procurer le médicament, je n'en ai plus depuis plus d'un mois. Et donc, qu'est-ce que l'on fait ? Le pharmacien prend contact avec le médecin traitant, Déjà, ça avait été difficile de le joindre juste avant les fêtes de fin d'année. Donc, il se passe déjà une journée avant qu'on arrive à joindre le médecin. Le médecin nous donne à ce moment-là la préconisation de donner un antibiotique proche, mais un peu moins efficace, qui est l'amoxicilline. Donc, on délivre l'amoxicilline juste avant les fêtes de fin d'année. Et le lendemain, la patiente revient et m'indique que son mari n'est pas du tout soulagé. Je lui ai dit que c'est 24 heures, c'est encore un petit peu tôt pour évaluer l'efficacité d'un antibiotique. Il me dit qu'il commence à s'encombrer, etc. Je lui indique qu'il va falloir être vigilant, puisque on se trouve à Thionville à ce moment-là dans une circonstance tout à fait particulière, puisque les urgences sont en tension et donc ont décidé de faire grève. Et au cours de la nuit d'après, le patient continue de s'encombrer. L'épouse du patient appelle le centre 15, qui lui indique qu'il faut continuer à administrer l'antibiotique et que, compte tenu de la grève des urgences à Thionville, il n'y a pas de place d'hospitalisation disponible actuellement et que les urgences de rapatriement, qui sont les urgences de Metz, n'ont pas de capacité, qu'il faut patienter. De retour juste après les fêtes de fin d'année, une de mes collaboratrices, Angélique, vient me voir. Elle me demande, Monsieur Clément, vous avez vu, le patient est décédé. J'étais extrêmement choqué de voir cette issue tragique auquel je ne m'attendais absolument pas. Voilà. En se disant, mon Dieu, voilà où nous mènent les pénuries de médicaments, la mise sous tension des urgences et les difficultés auxquelles sont confrontés tous les professionnels de santé. C'est une situation qui peut se reproduire, qui est grave, qui est intolérable et qui personnellement m'a choqué compte tenu du fait que je connais très très bien cette famille. C'est juste inacceptable. Au XXIe siècle, où on sait faire décoller des fusées pour aller sur la Lune, que Fleming a découvert la pénicilline, qu'on traite des maladies, qu'on sait faire énormément de choses et qu'on ait abandonné notre souveraineté en termes d'approvisionnement de médicaments essentiels. C'est des antibiotiques qui sont connus depuis des années, actuellement à la plupart des principes actifs, donc les ingrédients actifs à l'intérieur des médicaments ne sont plus fabriqués ni sur le territoire français, ni sur le territoire européen. La très vaste majorité est produite en Inde et en Chine. Et suite à l'épisode du Covid où il y a eu une explosion de la demande des antibiotiques, ces pays ont restreint les exportations et on est confronté à des pénuries. Après, il y a des phénomènes de prix. La même amoxicilline ou le même augmentin qu'on vend 3 ou 4 euros en France est vendu 6 ou 7 euros en Allemagne et 12 euros en Suisse, les industriels ont raisonné, sans doute comme ils doivent raisonner, mais sans doute pas en termes de santé publique comme raisonne un professionnel de santé. Clairement, le patient était victime d'une situation de mondialisation et de perte de souveraineté dans la production des médicaments. Bien évidemment, on essaye de trouver la première règle, c'est de prendre contact avec le médecin et trouver une alternative thérapeutique quand elle existe. Et fort heureusement, on en trouve la plupart du temps, on se dépanne avec des collègues, mais on passe un temps fou à faire un job qui n'est pas le nôtre. Moi, je devrais passer ma commande le matin et l'après-midi, le médicament devrait être là. Ou même, je ne devrais pas avoir passé commande. Pour les patients, leur traitement habituel doit être là. Les statistiques moyennes pour une pharmacie standard est qu'un pharmacien passe 12 heures par semaine, donc un tiers de son temps de travail, à pallier les ruptures, donc soit à appeler ses confrères, à appeler le médecin, à chercher auprès de différents fournisseurs les disponibilités de médicaments. Donc c'est un temps que l'on ne consacre pas aux patients, qui est fastidieux, un temps qui ne devrait pas être. On perd en qualité, puisque moins le pharmacien est au comptoir à s'occuper de ses patients, moins bien on s'occupe d'eux. Les réactions des patients sont, sont extrêmement variables. On a une majorité qui sont en colère, de l'angoisse. Bien évidemment, quand on est sur des traitements de rejet de greffe, il y a quand même des pronostics vitaux ou des risques d'opération. Donc, bien évidemment, ou des patients avec des ruptures d'anticancéreux. Il y a déjà comment gérer pour le patient sa maladie, le cancer. Et puis, en plus, si on lui complique les choses avec des non-disponibilités de médicaments, on sait très bien que c'est défavorable dans la prise en charge des traitements et en particulier dans le cancer. Alors, nous, on est dans une zone frontalière et on a cette chance. Il y a ceux qui peuvent aller à l'étranger et payer la boîte de médicaments, alors qu'ils devraient l'avoir prise en charge par l'assurance maladie pour laquelle ils ont cotisé toute leur vie. Nous, on est à côté du Luxembourg, donc ils vont au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne. Mais pour un patient qui serait à Brest, ben voilà, c'est juste pas possible. Et à titre individuel, je ne peux pas l'accepter, puisqu'on est clairement dans une médecine à deux vitesses. On a des choses très peu chères, comme le paracétamol, qui vaut 2,18 € de mémoire. Et on a des traitements anticancéreux dans mon frigo. Il y a des traitements à plus de 10 000 € la boîte. Donc, la palette de ce qui peut être en rupture est dans cet intervalle. Donc, bien évidemment, on ne peut pas demander à un patient au-delà de quelques centaines d'euros. C'est plus possible pour la majorité des patients. Les ruptures, c'est extrêmement inconfortable, quoi. On arrive le matin, on se dit mais merde, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Lequel va être en rupture? Comment je vais faire? Des fois, quand on reçoit une boîte d'antibiotiques et que j'ai 12 patients en file d'attente, je fais comment? Moi, pharmacien, c'est le premier qui me l'a demandé, c'est le plus âgé, c'est celui qui a le plus de fièvre, c'est le plus sympa. Je fais comment, moi, pour dire, ben voilà, j'ai une boîte, j'en ai 12 en attente, je la donne à qui? Ça me rappelle des heures pas très agréables. Ça me rappelle l'épisode des masques où on n'en avait pas. J'avais des gens de ma famille qui m'en demandaient, des patients sous traitement anticancéreux qui devaient à l'hôpital, qui n'avaient pas les masques. C'est une situation extrêmement inconfortable pour tous les professionnels de santé qui sont confrontés à ce genre de situation.
On me dit que c'est passager, et si je m'étais trompée de train, c'est vrai, je suis pas âgée, toujours l'impression que c'est la fin.
C'était « Quand les médicaments viennent à manquer », un reportage de Karine Lelouette réalisé par Julie Berissi. Merci à Anne de Cinca, fondatrice de l'association Bipolaire 22, à René-Pierre Clément, à Mathieu, à Nathalie, à Sébastien, à Émilie et à Dominique Guillot de l'association Argos 2001. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
J'ai besoin d'un médicament, je voudrais survivre médicalement. Faudrait médicalement pour dormir sans missile collant. J'ai besoin d'un médicament, je suis désolée, mais si maman, je me méfie maintenant, mes rires sont moins fréquents qu'avant. Je me méfie maintenant, mes rires sont moins fréquents qu'avant. Même la nuit tombe avec moi, on peut faire du skate sur mes cernes. Je casse le miroir quand je me vois, blessure ouverte, alors je me renferme. Les secondes deviennent des mois. La vie est une conquête de western. Dans ma mâchoire, y'a un débat pour savoir qui va craquer la première. J'ai besoin d'un médicament, je voudrais survivre médicalement. Faudrait médicalement pour dormir sans mes cils collants. J'ai besoin d'un médicament, je suis désolée, mais si maman, je me méfie maintenant, mes rires sont moins fréquents qu'avant. J'ai besoin d'un médicament, je voudrais survivre médicalement. Faudrait médicalement pour dormir sans mes cils collants. J'ai besoin d'un médicament, je suis désolée, mais si maman, je me méfie maintenant, mes rires sont moins fréquents qu'avant.